présente l'empreinte d'Alex Marzano Lesnevich. Lupard ou Audrey Sourdive. Pour mes parents. Note sur les sources. J'ai reconstitué la vie de Ricky Langlais en m'appuyant sur un mélange de documents des tribunaux se trouvant dans le domaine public, d'articles de journaux et de reportages télévisés, et par endroits, sur une pièce de théâtre inspirée d'entretien. Avec une telle abondance de documentation, il y a de multiples occurrences dans lesquelles je me suis trouvée confrontée à deux ou davantage d'informations contradictoires, et j'ai dû en choisir une, afin de façonner une narration cohérente. À bien d'autres occasions, j'ai pris la décision d'inclure les informations conflictuelles, glissements et ellipses, et de mettre en lumière ces contradictions et lacunes. Les informations sur mes sources sont détaillées dans la section « Sources consultées », située à la fin de cet ouvrage. Pour chaque événement consigné ici, je dispose au minimum de la garantie d'un témoin et de sa description des faits. Le cas échéant, il s'agit d'une combinaison construite à partir de plusieurs récits, ainsi que je le détaille dans la section « Sources consultées ». Chaque fois que je suis partie d'une retranscription ou d'un procès-verbal, j'ai réécrit les dialogues afin de préserver la clarté et le rythme du récit. Une bonne part des événements que je rapporte se sont produits sous l'œil du public et les feux des médias, mais j'ai néanmoins changé quelques noms. Les deux voyages de recherche qui forment la colonne vertébrale de la troisième partie du livre sont en fait une quantité de voyages entrepris sur plusieurs années. Je les ai condensés, mais les événements décrits se sont produits tels quels. Si je n'ai inventé ou modifié aucun événement, m'appuyant au contraire sur la documentation qui m'a servi de matière première pour ce livre, j'ai par endroits superposé mon imagination sur les faits bruts du passé afin de leur redonner vie. Je précise où, dans la section « Sources consultées » à la fin du livre. Dans tous les cas, ce qui est présenté ici est mon interprétation des faits, la lecture que j'en propose, ma tentative de reconstituer cette histoire. Pour toutes ces raisons, il s'agit d'un livre sur ce qui s'est produit, oui, mais aussi d'un livre sur ce que nous faisons de ce qui s'est produit. Il parle d'un meurtre, il parle de ma famille, il parle d'autres familles dont les vies ont été bouleversées par le meurtre. Mais plus que ça, bien plus que ça, il s'agit d'un livre sur la façon dont nous comprenons nos vies, le passé, sur la façon dont nous nous comprenons les uns les autres. Pour y parvenir, nous créons tous des histoires. Prologue. Il est toujours possible que la solution d'un mystère en résolve un autre. Truman Capote, de sang-froid. C'était juste notre Ricky, vous savez. Darlène Langlais, sœur de Ricky Langlais. En droit, il existe un principe nommé cause adéquate, enseigné aux étudiants de cinquième année par le biais de l'affaire Palsgraf versus Long Island Railroad Company. Une femme se tient à un bout d'un quai de gare. Nous sommes en 1924, et Hélène Palsgraf emmène ses deux petites filles à Rockaway Beach pour l'après-midi. La journée est très chaude, et on étouffe dans la maison de briques semblable à toutes les autres dans laquelle vivent les fillettes, leurs grands frères et leurs parents. Il n'y a pas école, rien à faire. Et les fillettes ont pleurniché toute la journée. C'est pourquoi Hélène a finalement décidé de les emmener à la plage. Peut-être porte-t-elle une robe de coton par-dessus son maillot de bain et un chapeau de paille à large bord pour se protéger du soleil. Pour l'heure, elle est adossée à l'un des poteaux du quai et s'évente avec son chapeau. À quelques mètres, les filles jouent ensemble avec une poupée apportée par l'une d'entre elles. Hélène les regarde paresseusement. À l'autre bout du quai, à 10 mètres de là, un jeune homme court pour attraper le train qui est en train de démarrer. Un express, pour le quartier de Jamaïca, dans le Queens. Peut-être a-t-il prévu d'y retrouver ses copains pour une soirée de bamboche. Ils boiront de la bière. Ils iront voir un concert. Ils danseront avec des jolies filles. Peut-être même embrassera-t-il celle dont son cousin lui a parlé. Une beauté du Connecticut. Il est accompagné de deux autres jeunes hommes, et ils courent tous en direction du train. Mais celui qui nous occupe porte sous son bras un mince paquet enveloppée dans du papier journal, de 40 cm de long. Le train a déjà commencé à quitter la gare, et ses larges roues métalliques tournent de plus en plus vite, mais l'homme ne veut pas rater sa soirée. Il court plus vite. Peut-il y arriver ? Le train s'éloigne. Il y a un espace entre le marchepied et le quai à présent. L'homme saute. Dans le train, un contrôleur se penche pour le prendre par les bras et le hisser à bord. Sur le quai, un porteur le pousse. L'homme parvient à monter dans le train, sain et sauf. Mais le paquet tombe, et lorsqu'il touche le sol, il explose. Il contenait des feux d'artifice. Le lendemain matin, le journal parle de dizaines de blessés. Les cheveux d'une adolescente ont pris feu. Une mère et une fille ont été entaillées partout sur les bras et les jambes. Et à l'autre bout du quai, une grosse balance métallique employée pour peser les bagages a vacillé dangereusement. La femme, qui se tenait dessous, un grand chapeau de paille à la main, a hurlé. La balance est tombée. Lorsque Madame Palsgraf se remet, elle porte plainte contre la compagnie de chemin de fer pour ses blessures. Quelle est la cause des dites blessures? Commençons par la chute de la balance. C'est ce qu'en droit on appelle la cause directe. Si la balance n'était pas tombée, Madame Palsgraf n'aurait pas été blessée. Mais il y a un problème. Une balance ne tombe pas comme ça. C'est l'explosion qui a causé la chute. Et les explosions ne se produisent pas comme ça. Ce sont les feux d'artifice du jeune homme qui ont causé celle-ci. Mais les feux d'artifice ne se déclenchent pas comme ça. Le porteur, en poussant le jeune homme, a fait que celui-ci a laissé échapper ses feux d'artifice. La blessure doit être de la responsabilité du porteur et par conséquent de la compagnie de chemin de fer qui l'emploie. Toutes ces causes possibles sont des causes directes. Les causes directes se multiplient à l'infini. L'idée de cause adéquate apporte une solution. Le travail de la justice consiste à déterminer la source de l'histoire, afin d'assigner les responsabilités. La cause adéquate est la seule qui compte vraiment du point de vue de la loi, la seule qui fait que l'histoire est ce qu'elle est. Dans mon souvenir, il y a une salle obscure, à la gueule ouverte, telle une grotte, avec des barreaux fluorescents qui luisent faiblement au centre de l'orifice. Sur les murs, des rangées de livres reliés de cuir du sol au plafond. Les couleurs ternes de leurs tranches font alterner le bleu d'un vieux drapeau, le vert de l'océan, le rouge du sang séché. Les livres sont des registres légaux, les mêmes ouvrages que l'on retrouve dans la bibliothèque de tous les cabinets d'avocats du pays, qui contiennent des décisions de justice datant d'il y a des décennies. Chacun d'entre eux contient d'innombrables histoires, d'innombrables vies, qui a fait quoi et qui en a fait payer. Imaginez-moi dans cette salle. En juin 2003, à l'âge de 25 ans. La semaine dernière, voûté dans le box d'une bibliothèque qui sentait le vieux bois, j'ai consacré mes journées à passer des épreuves de 6 heures pour sanctionner ma première année à la fac de droit de Harvard. Hier, j'ai pris un avion qui m'a amené au sud de la Nouvelle-Orléans, et quand je suis sortie, j'ai eu l'impression de me prendre une grande claque d'air chaud. Je suis venue dans le sud pour lutter contre la peine de mort en effectuant un stage dans un cabinet d'avocats qui représente des individus accusés de meurtre. Je suis fière de ce travail que je me propose de faire. Et en même temps, j'ai peur. Ma connaissance du droit vient exclusivement des livres et des histoires de clients que mes parents, tous deux avocats, me racontaient dans mon enfance. Il s'agissait de batailles pour la garde d'enfants, d'erreurs médicales, d'une chute accidentelle, une fois d'un meurtre, mais rien de comparable à des affaires où la peine de mort était en jeu. Rien de semblable à ce que j'imagine trouver à la Nouvelle-Orléans, en pleine vague de crimes cet été. Au journal télévisé, hier soir, j'ai vu les bandes jaunes de la police sur une porte fermée. Ce matin, sur Baron Street, dans les boîtes à journaux, des gros titres en noir. Un meurtre. Sur les étagères de la bibliothèque, sous les registres d'affaires, sont posés des livrets photocopiés, protégés par des feuilles plastifiées et reliés avec des anneaux de plastique. Ils détaillent les étapes suivies par l'État avant de procéder à une exécution. Je le sais. Dans cette salle, on défend des vies.